Hélène, que nous accueillons maintenant au 39-21. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Hélène et quel âge avez-vous?
Je vous appelle de Provence et j'ai 52 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Hélène? Dites-moi.
Moi je vous appelle parce que je voudrais vous parler des féminicides. Et je voudrais aussi, en même temps qu'on parle des féminicides, en profiter pour rappeler que samedi 20, il va y avoir une grande marche organisée à l'initiative du collectif Nous Toutes, à Paris et dans toute la France, et que nous, familles de féminicides, serons présents dans le cortège. Et je voulais juste m'assurer que si des familles que nous n'aurions pas encore identifiées voulaient se joindre à nous, juste pour ne pas être seules et aussi pour rendre hommage à leurs défuntes, qu'elles sachent qu'on sera là et qu'elles puissent venir nous retrouver.
Alors, cette marche a lieu à Paris uniquement ou elle est organisée partout en France, Hélène?
Alors, ma compréhension, c'est qu'elle est organisée partout en France. Notre association, l'Union nationale des familles de féminicides, elle sera présente à Paris, dans le cortège parisien, et on donne rendez-vous aux familles qui voudraient se joindre à nous, à Place de la République, au 6 Place de la République, à 13h30.
D'accord, très bien. Vous y serez, bien évidemment, et quelles autres représentantes seront là? Est-ce que vous pouvez nous dire qui participe à cette marche?
Alors, concernant notre association, c'est pratiquement tout le bureau qui est constitué uniquement de familles et de proches de victimes de féminicides qui sera là. Donc, notre présidente Sandrine Bouchet, notre secrétaire Isabelle Seva, notre référente Femmes en danger, Haute-Claire, et puis moi je serai là, et bien d'autres encore, puisqu'on on a beaucoup de familles qui nous ont fait l'amitié de se joindre à nous pour porter haut les visages de ces femmes disparues.
Très bien, donc c'est samedi donc qui arrive, hein, vous qui nous écoutez, si vous voulez participer à cette marche, bien évidemment, vous serez toutes et tous les bienvenus, parce que plus vous serez là, plus il y aura de monde, plus les choses résonneront, en tout cas les messages résonneront aux oreilles de celles et ceux qui dirigent ce pays, et nous avons encore besoin que les choses bougent. Grandement. Hélène, cela fait partie de certaines de vos revendications. Aujourd'hui, vous êtes membre, donc vous êtes vice-présidente de cette association de l'Union nationale des familles de féminicides.
Oui, c'est ça.
Vice-présidente.
On l'a co-créée en 2019 à plusieurs familles. Et aujourd'hui, depuis le début, j'en assure la vice-présidente. Et Madame Bouchet, Sandrine Bouchet, en assure la présidente.
Alors Hélène, je sais que vous insistez, on vient d'écouter le témoignage de Christine qui parlait de manipulation, qui parlait donc de cette toile qu'avait tissé cet homme autour d'elle. Je sais que vous insistez sur la dangerosité des violences psychologiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
Oui, alors c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que ma sœur qui est décédée en 2019, Marie-Alice, rien ne laissait présager que ça allait lui arriver et on n'avait jamais eu l'occasion de la voir marquée d'aucun coup. Et elle est loin d'être seule dans ce cas. On étudie beaucoup, beaucoup de situations de féminicide. Et dans de nombreux cas, ces femmes sont assassinées sans jamais avoir reçu un coup, oui, mais simplement en ayant été terrassées avec toute résistance annihilée par des violences psychologiques qui les ont mises dans l'impossibilité de partir. Et c'est le jour où elle trouve la force de partir que ces crimes de possession sont commis. Et donc, nous, on veut, enfin, surtout, moi, je veux vraiment alerter sur le fait qu'il faut déconstruire le stéréotype de la femme battue. Et bien sûr, il y a des femmes qui sont battues et c'est terrible. Et il faut absolument venir à leur secours. Mais il ne faut pas du tout prendre à la légère une femme qui est sous emprise, une femme qui est victime de harcèlement par son conjoint ou son ex-conjoint, victime de l'emprise de la personne avec laquelle elle vit.
Alors, je sais que vous étiez très proche de votre sœur. Vous dites que vous n'oublierez jamais l'une des dernières phrases qu'elle vous a prononcées, elle vous disait « il ne ferait pas de mal à une mouche ». Elle parlait de son compagnon. Lorsqu'on est proche comme ça, comme vous l'avez été, est-ce que vous aviez remarqué quelque chose? C'est ma première question. Et si oui, comment agir dans ces cas-là? Comment aider l'autre à déconstruire? Parce que c'est tout de même compliqué de s'immiscer dans la vie, dans l'intimité de quelqu'un, même si on est proche.
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué et mon souvenir, c'est qu'un jour, vous savez, souvent, dans les cas de violence psychologique, il y a des tentatives de rupture, même dans les cas de violence physique.
Oui.
Et on dit qu'il en faut 7 avant que la victime arrive vraiment à reprendre sa liberté. Et dans le cas de Marie-Alice, c'est à la 6e tentative qu'elle a été victime de son bourreau au point qu'il lui enlève la vie. Et je me souviendrai toujours que lors d'une des ruptures, elle s'en était ouverte à moi. Elle m'avait dit « ça y est, c'est terminé avec Luciano, je vais avancer, ça y est, c'est fini ». Et là, tout le mal que je pensais de lui est sorti. De façon vraiment vive et elle l'a très très mal pris et elle a trouvé 1000 excuses à cet homme pour être l'odieux personnage qu'il était et c'est ce qu'expliquait Christine. Il y a une forme de culpabilité qui naît et donc elle lui a trouvé toutes les excuses pour être la vilaine personne qu'il était avec elle.
Il y a...
Et donc,
allez-y, pardonnez-moi.
Ce que je voulais juste dire, c'est que en ayant exprimé trop fermement le fond de ma pensée sur cet homme, je pense qu'il y a des choses par la suite qu'elle n'a plus voulu me dire. Et donc, il y a des signaux dont on se coupe quand on fait ça. Et donc, il faut trouver le juste milieu entre encourager la personne dans son départ, mais ne pas juger et laisser toujours la porte du dialogue ouverte.
On va faire une petite pause et on continuera à parler justement de ce cas de figure, parce qu'il y a aussi, à mon avis, une difficulté à s'avouer vaincu lorsqu'on est intelligente comme votre sœur l'était, à se voir dépasser. Enfin, on va continuer à en parler. On marque une petite pause. À tout de suite, Hélène.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
23h30 sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne. Hélène, on parlait de la difficulté à s'immiscer dans la relation, dans l'intimité d'une personne dont on est proche, comme vous l'étiez de votre sœur. Mais n'y a-t-il pas eu de sa part aussi une gêne à montrer que cet homme lui passait un peu au-dessus, passait au-dessus de son intelligence en lui imposant tout un tas de choses et que finalement, le constat qu'elle pouvait faire, c'est qu'il y arrivait.
Oui, alors je ne sais pas si la conscience de sa situation était telle qu'elle en ait une pleine conscience. À mon avis, enfin, l'impression que j'ai plutôt, c'était qu'elle cherchait dans son intelligence des explications rationnelles à ouais. ce comportement abusif et qui pourrait paraître irrationnel pour quelqu'un d'autre. Et je pense que, et ça je veux en parler aussi, c'est que les féminicides et comme les violences conjugales touche absolument tous les milieux, mais que là encore, il y a un a priori de classe touchée par cela. Et je pense que l'enjeu réputationnel et l'enjeu, voilà, le sentiment de honte qu'il peut y avoir à se rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas normal, peut être un frein à oser parler, à oser dire et à oser demander de l'aide.
Oui, à oser parler. Peut-être la honte aussi. Ça peut être...
Oui, je pense qu'il y a aussi une forme de honte. Et cette forme de honte, on la retrouve aussi d'ailleurs pour nous, familles, qui avons vécu ces meurtres odieux et qui avons été pris au milieu des articles de journaux parfois bien, bien déplorables par leur qualité. On a une forme de honte qui peut se faire jour et qui peut faire qu'on s'enferme dans cette solitude. Et je pense qu'il y a quand même un genre de lien entre la solitude et la honte de la femme qui réalise qu'elle est victime de violence mais qui ne veut ou ne peut pas le formuler et les familles qu'on retrouve qui sont parfois vraiment très très isolées dans le silence et la honte alors même que en aucun cas elle ne devrait avoir ce sentiment quoi. Qu'elle puisse être en colère ou voilà, nous ce qu'on veut c'est qu'elle sorte de ça et qu'elle commence à travailler sur comme une victime à travailler sur la sortie de cette situation insoutenable où on est seul.
Est-ce que vous entendez par là que justement le fait que cela soit des violences psychologiques donc finalement qui se voient qui ne se remarquent beaucoup moins hein, que des violences physiques qui peuvent laisser des traces à un moment. Est-ce que la colère, l'errance un peu que peuvent connaître certaines familles après, l'incompréhension, est-ce que la colère, la douleur est plus importante au final lorsqu'on n'a rien vu parce que justement ces violences, elles étaient uniquement... dans les mots, dans la manipulation, dans les regards, mais pas dans les coups.
Ouais, oui, je pense qu'on éprouve de la colère à l'égard des meurtriers. Forcément, c'est juste naturel. Mais je crois que le sentiment qui émerge plus que tout, en particulier dans le cas de ces violences psychologiques qui sont insidieuses et qui sont effectivement pas très visibles quand on ne connaît pas les signaux faibles, c'est plutôt de la culpabilité, le sentiment de vraiment être passé à côté de quelque chose d'important et ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles il faut travailler avec l'aide de spécialistes en psychotrauma pour surmonter ce sentiment de culpabilité, le sentiment d'être vraiment passé à côté de petites choses qu'on a entendues et qu'on n'a pas écouter ou qu'on a vu et qu'on n'a pas interprété.
En tout cas, pour combattre ces violences sous toutes leurs formes, bien évidemment. Samedi, vous marcherez au nom de l'Union nationale des familles de féminicides qui réclame notamment la création d'un véritable statut de victime hein, pour les victimes collatérales de féminicides. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Oui, on a une pétition qui est en cours sur change.org qui s'appelle pétition enfant féminicide. Donc si on tape ces trois mots, on la trouve. Et dedans, ce qu'on y retrouve, c'est le fait qu'on demande qu'un statut de victime soit reconnu pour les familles, les proches de ces victimes assassinées. Parce que nous sommes victimes d'un psychotraumatisme grave qui nécessite un accompagnement particulier. Et aujourd'hui, rien n'est prévu pour cela. Aucun accompagnement n'est prévu. Alors, moi, je vous en parle en tant que... Voilà, j'ai 52 ans. Quand ça m'est arrivé, j'avais 50 ans. Et j'étais plutôt bien armée. J'avais déjà fait un travail psychologique. Voilà, mais moi, j'ai mon âge. Mais les enfants qui sont victimes collatérales de ces féminicides, il faut savoir qu'en France, rien n'est prévu pour les accompagner. Il n'y a aucun accompagnement obligatoire qui est prévu. Mmh. Alors, Antoine, dans des pays comme l'Italie, c'est un accompagnement qui est prévu au long cours, une bourse d'études. Ouais. Enfin, il y a vraiment des choses qui se passent dans d'autres pays qui sont bien plus avancées que ce qu'on fait en France.
Antoine, que vous connaissez, hein, qui est membre aujourd'hui de l'Union nationale des familles et de féminicides, est venu nous parler sur cette antenne justement de ce non-accompagnement des enfants, hein, de ce vide intersidéral autour de justement de tout ce qui entoure le statut de victime pour ces enfants. Et on a évoqué plusieurs cas avec lui et évidemment son histoire. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a beaucoup de progrès à faire quant à ce statut, hein, de victime, et notamment pour les enfants. Mais je suppose que même si vous êtes une adulte, vous n'avez été accompagnée que parce que vous le vouliez et que vous le pouviez. Aujourd'hui, on ne propose rien à ces victimes, à ces familles victimes. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique gratuit ? Est-ce que quelque chose est mis en place pour les familles ? Aujourd'hui, il n'y a rien.
Aujourd'hui, il n'y a rien qui les emmène vers des endroits qui pourraient les prendre en charge. C'est-à-dire que c'est vraiment au petit bonheur la chance. C'est en fonction des gens que vous allez rencontrer, qui vont vous conseiller plus ou moins bien, que vous allez peut-être pouvoir avoir un suivi. Et il ne sera pas toujours pris en charge. Donc nous, on demande la prise en charge psychologique des victimes en psychotrauma, qui est quand même une compétence bien particulière dès l'annonce du décès et jusqu'à ce que la personne puisse reprendre les rênes de sa vie. On demande aussi quelque chose qui peut paraître vraiment incroyable, mais la prise en charge du nettoyage des scènes de crime. Enfin, on a des enfants de personnes assassinées qui se retrouvent à devoir rentrer dans une maison qui n'a pas été nettoyée. Ça, c'est juste d'une violence incommensurable, en plus de la violence d'avoir déjà perdu un de ses parents par homicide. On parle aussi, il y a aussi quelque chose, ça Antoine en avait parlé, c'est la suspension de l'autorité parentale du parent meurtrier. Aujourd'hui, depuis le Grenelle, elle a été mise en place pour 6 mois. Voilà, aujourd'hui, c'est pour 6 mois et au bout de 6 mois, il faut de nouveau faire appel à cette décision et faire en sorte qu'elle soit reconduite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la suspension de l'autorité parentale, elle soit immédiate et elle soit jusqu'au procès, jusqu'au jugement définitif du meurtrier. Toujours pour les enfants, il y a des endroits en France où il est préférable de se trouver si on a le malheur d'être victime collatérale d'un féminicide. C'est la Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, il y a un protocole qui s'appelle le protocole féminicide de prise en charge des enfants et des familles et qui est un protocole pluridisciplinaire entre le médical, la justice, l'aide sociale à l'enfance, etc., pour déterminer quelle va être la meilleure solution pour l'enfant afin qu'il soit placé. Je me souviens d'Antoine expliquant que son petit frère, son demi-frère, était placé chez les parents du meurtrier, qui en plus sont des gens âgés. C'est pas l'idéal, vraiment, c'est pas l'idéal. On ne peut que craindre qu'ils vont minimiser le geste de leur fils.
Non.
Et à ce titre, faire rentrer dans le crâne de cet enfant que c'est quelque chose de pas si grave.
Oui, avec les droits parentaux qui avaient été préservés pour cet homme et donc qui pouvait exercer ses droits parentaux sur ce petit garçon, ce qui me paraît complètement incroyable par rapport au geste qu'il a commis, le meurtre abominable de la maman, hein, de la maman de ce petit, hein, qui était sa compagne, il a gardé ses droits parentaux et Antoine nous racontait que le petit était même contraint d'aller passer de temps en temps un week-end familial dans l'unité familiale de la prison. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire et au nom de notre humanisme et de notre humanité, parfois, on fait des choses qui sont totalement incompréhensibles. Merci en tout cas, Hélène. Vous retrouvez, vous qui nous écoutez, bien évidemment, le chemin. On aura mis toutes les références de l'association, donc de l'Union nationale des familles de féminicides sur notre groupe de parole. Si vous voulez consulter le site de cette association, si vous voulez aider cette association, elle en a besoin, elle a besoin de votre aide, de votre soutien, eh bien n'hésitez pas. Cette association, je vous le rappelle, ce sont tous les membres de familles, de femmes qui ont été assassinées par leurs compagnons, leurs conjoints, leurs maris, et voilà, c'est très important que vous les souteniez, que vous les accompagniez et qu'ils sentent votre soutien et votre présence. Samedi, la marche, rappelez-nous l'horaire et le lieu de départ, Hélène.
Alors, ce sera à Place de la République et notre groupe se retrouvera à 13h30 pour un départ à 14h au numéro 6 de la Place de la République. C'est indiqué sur notre site internet.
Très bien. Bah, écoutez, merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, on sera, pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, de tout cœur avec vous samedi. Au revoir, Hélène.
Merci, Olivier. Au revoir.